plus d'un millier d'enfants abusés, des prêtres catholiques couverts par leur hiérarchie. Après 2 ans d'enquête dans l'État de Pennsylvanie, un rapport accablant a été rendu public la semaine dernière en présence de quelques-unes des victimes.
C'était de l'abus sexuel d'enfants, y compris des viols. Les évêques avaient la clé des archives secrètes qui contenaient à la fois les allégations et les aveux des prêtres.
L'ampleur de ce nouveau scandale de prêtres pédophiles a poussé le pape François à réagir hier sur un ton inédit dans une lettre adressée à tous les catholiques. Un mea culpa traduit en cette langue.
Avec honte et repentir, en tant que communauté ecclésiale, nous reconnaissons que nous n'avons pas su être là où nous le devions, que nous n'avons pas agi en temps voulu, en reconnaissant l'ampleur et la gravité du dommage qui était infligé à tant de vies.
Dans cette lettre, François dénonce la culture du silence et les complicités au sein de l'Église. Il exhorte chaque catholique à se mobiliser contre la pédophilie. Un appel entendu par un prêtre français qui vient de lancer une pétition pour réclamer la démission du cardinal Barbarin, poursuivi pour non-dénonciation d'agression sexuelle.
L'appel du pape est clair. Le peuple de Dieu doit réagir. Je vous demande donc publiquement et sans détour de donner votre démission de cardinal et d'archevêque de Lyon dans les plus brefs délais.
En lançant un message à tous les fidèles, le pape va-t-il se retrouver au défi de lâcher des dirigeants de l'Église? Devra-t-il même briser des tabous comme le célibat des ecclésiastiques et le refus d'ordonner des femmes prêtres?
Alors bonsoir à tous les trois, merci de nous avoir rejoints. À mes côtés, Claude Plettner, vous êtes théologienne et journaliste. Vous êtes l'auteur notamment d'un ouvrage qui s'intitule « L'autre christianisme » paru aux éditions Bayard. Et alors selon vous, Claude Plettner, une des solutions pour faire reculer, pour combattre la pédophilie dans l'Église, consisterait à donner, dites-vous, plus de responsabilités, peu à peu, progressivement, aux femmes dans l'Église, de façon, progressivement, vous dites, pour être prudent, notamment vis-à-vis des réactions des croyants. À vos côtés, bonsoir Alexandre Dussault, vous êtes cofondateur de l'association La Parole Libérée. Alors, on va rappeler que cette association, elle lutte pour faire reconnaître la responsabilité de l'archevêque de Lyon, Mgr Barbarin, dans des actes pédophiles dont vous avez d'ailleurs vous-même été l'une des victimes, des actes pédophiles qui avaient été commis par des prêtres entre 1970 et 1991. Et selon vous, Alexandre Dussault, vous dites qu'il n'y a rien de nouveau dans la lettre du pape François, parce que ce type de discours, il en a déjà prononcé d'autres, mais l'omerta de la hiérarchie du clergé perdure, voire s'aggrave. Et puis à vos côtés, bonsoir Stéphane Clergé, vous êtes pédopsychiatre, vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui s'intitule « Les vampires psychiques, comment les reconnaître, comment leur échapper », paru aux éditions Fayard. Et alors selon vous, vous vous dites que le célibat des prêtres, que certains évoquent aujourd'hui, en tout cas, c'est pas, vous n'en faites pas une cause de la pédophilie, parce que vous soulignez que dans la société civile, la plupart des pédophiles recensés sont bien souvent mariés et pères de famille, donc la question ne se pose pas à vos yeux. Tout de suite, pour lancer le débat, vous avez une question d'un téléspectateur, Caroline.
Internaute, oui. Est-ce que l'Église catholique est rattrapée par sa culture du secret? Alexandre Dussault, c'est vrai qu'on l'a vu aussi dans le sujet qui présentait ce débat, les enquêteurs ont découvert que le clergé lui-même détenait des archives secrètes. Alors, est-ce qu'il y a une culture du silence qui est la preuve d'une culpabilité première, disons?
C'est assez clair. Nous, dans l'association La Parole Libérée, on a été très tôt mis en face de cette réalité. On a tout de suite parlé d'omerta, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une culture du secret qui est institutionnalisée à l'intérieur même de la hiérarchie, ou depuis des années, et surtout, c'est généralisé, c'est-à-dire à l'ensemble des pays, c'est-à-dire qu'on a exactement, que ce soit en France, au Chili, en Argentine, en Australie, on a exactement la même démarche de cette culture du secret, avec ce même processus qui est chaque fois mis en place.
Alors, vous avez évoqué nombre de pays dans lesquels il y a eu des scandales pédophiles ces dernières années, et donc le tout dernier en date qui a été révélé, c'est en Pennsylvanie, aux États-Unis, et c'est un scandale de grande ampleur, Eric, puisqu'il implique de nombreux prêtres.
Hein. Oui, il implique 301 prêtres prédateurs qui sont accusés d'abus sexuels depuis plus de 70 ans, dont certains d'ailleurs sont morts aujourd'hui. Alors on l'a vu, le pape François a réagi en s'adressant à l'ensemble de la communauté catholique, mais Claude Plettner, que peuvent faire les fidèles pour lutter contre la pédophilie?
Je trouve ça étonnant, cet appel aux catholiques de base, parce que le cléricalisme que dénonce le pape, c'est un système hiérarchique, et le catholique de base, par définition, il en est à la base. Il est, voilà. Et donc, va-t-il faire par rapport à quelque chose qui est beaucoup plus systémique, qui est pas...
Alors, le pape évoque notamment le jeûne, la prière. Bon, c'est pas le jeûne et la prière qui vont changer et qui vont combattre ces comportements. Mais il exhorte quoi, les catholiques à parler, à dénoncer des prêtres.
Il les invite à dénoncer le cléricalisme, c'est-à-dire l'abus de pouvoir, ou ce qu'il appelle des déviances d'autorité de la part des clercs. Et clairement, à ne pas laisser des comportements d'autorité qui ne sont pas...
Mais il y a des recommandations, mais il n'y a pas de décision dans cette lettre.
Mais c'est tout le problème. Moi, je crois qu'il y a un rappel à la loi qui s'impose, il y a une reconnaissance de la souffrance des victimes, il y a beaucoup d'avancées, mais il n'y a pas de remise en cause. Pour moi, c'est la limite. C'est bien sûr qu'il faut changer les cultures, les mentalités, mais il n'y a pas de remise en cause d'une institution qui a des déviances dans son fonctionnement. Pour moi, en particulier, d'une autorité qui est détenue par des clercs, essentiellement par des prêtres qui ne sont que des hommes, des évêques, des cardinaux. Et peut-être que s'il y avait plus de partenariat avec des femmes et que les femmes étaient plus associées à ce pouvoir, ils seraient peut-être un peu moins dans la déviance.
Alexandre Dussault, dans les affaires de pédophilie que vous avez connues, est-ce qu'il y a des croyants, des fidèles qui en fait savaient et qui n'ont pas parlé, qui eux aussi ont... participer de cette culture du secret que vous évoquiez tout à l'heure.
De toute manière, pour mettre en place un secret comme celui-ci sur des prêtres, effectivement, qui concernent, où ça concerne énormément d'enfants, effectivement, il faut une complicité sur toute la chaîne, que ça soit effectivement... Enfin, dans notre cas, c'était l'évêque connaissait, mais le prêtre, effectivement, les gens qui l'entouraient connaissaient ses déviances sexuelles, et ça a perduré. Pendant très longtemps. Et ce qui est le plus terrible, c'est que c'est finalement cette culture de secret et ces complicités permettent à ces prédateurs sexuels de continuer en toute impunité leur perversion. C'est ça le plus dangereux, c'est-à-dire qu'on le voit dans le cas de la Pennsylvanie, en fait, certains prêtres ont été effectivement à un moment reconnus, mais on les a replacés, etc. Et ils ont...
Ça a duré pendant 70 ans.
Ça a duré pendant très longtemps avec de nombreuses victimes qui sont quand même des enfants.
Et Stéphane Clerget, est-ce que, au fond, les parents aussi, parfois, ont du mal à accepter la parole de leurs enfants, voire restent sourds à la parole de leurs enfants?
C'est vrai, mais c'est assez récent qu'on écoute les enfants. Hein. Ça fait une cinquantaine d'années. On peut imaginer que ce système pervers fonctionne aussi depuis des siècles. Qui écoutait les enfants? Les enfants disent des enfantillages. C'est assez récent, et c'est parce que, justement, on a pris en compte aujourd'hui la parole des enfants, on les écoute, que des scandales comme ça ont pu être révélés.
Mais c'est vrai qu'il y a aussi dans l'Église catholique des fidèles qui avaient tendance, ou qui ont tendance peut-être à croire peut-être davantage la parole du prêtre que celle de leur propre enfant.
Il y a effectivement, quand on parle de cléricalisme, il y a quand même une emprise psychologique et spirituelle qui est très forte de la part effectivement des clercs, hein, qu'ils soient prêtres ou évêques, où on a tendance à avoir, quand on est parent, peut-être avoir eu peur du scandale ou avoir eu peur de sa communauté. C'est comme une famille très, avec un cocon, on a peur d'alerter ou de dénoncer un coupable.
Les enfants ne parlent pas aussi parce qu'ils ont peur aussi d'être coupables. Hein. C'est comme les femmes victimes de viol, c'est-à-dire la victime se sent coupable.
On en entend quand même de plus en plus parler, la parole quelques années.
On en entend de plus en plus parler parce qu'il y a une génération effectivement qui commence à avoir cette liberté de parole, qui est à peu près les 30 ans ou les cadras, effectivement, on voit effectivement que ce sont des victimes qui parlent après 20 ans. Et puis, mais cette parole-là, effectivement, en France, elle commence à exister encore, dans certains villages, etc., ça peut être plus compliqué. On peut imaginer que il y a des scandales à venir très importants. Nous, on a eu un contact notamment en Afrique, où là, la parole est fermée complètement avec des nombreuses victimes. Et ça va encore perdurer.
Alors évidemment, l'Église, elle se défend quand on l'accuse de pas parler ou d'entretenir ce secret qu'on évoquait à l'instant. L'Église se défend, notamment l'Église de France, par la voix d'un de ses responsables, Eric.
Oui, c'est même le numéro 2 de l'Église en France, Monseigneur Pierre-Marie Carré. Il est vice-président de la Conférence des évêques. Et il était interviewé la semaine dernière sur Europe 1. Il donnait son avis sur cette transparence accordée aujourd'hui aux affaires au sein de l'Église. On le regarde.
Il y a une coopération avec la justice qui fait qu'il n'y a pas d'affaires qui soient étouffées ou qui soient mises à l'écart.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, un prêtre, un évêque qui entend parler de faits de ce type a pour devoir de dénoncer la justice?
Exactement. Ce n'est pas nouveau, mais cela est fait de manière absolue aujourd'hui.
Alexandre Dussault, est-ce que c'est vrai? Est-ce que quand il y a un problème aujourd'hui, l'Église appelle la police, le juge?
Bah, apparemment, enfin, en tout cas, pour l'instant, ce que l'on voit, c'est qu'ils ont eu très très peur. Donc, pendant quelques mois, peut-être quelques années, il y aura vraiment eu une démarche de ce côté-là. Mais je rappelle quand même qu'en 2001, il y a déjà eu des histoires très fortes, notamment avec l'affaire Piquant, où un évêque avait été condamné pour non-dénonciation. Pendant quelques années, effectivement, on a écrit des livres sur le fait d'alerter, et puis c'est tombé dans l'oubli, et puis on a recommencé.
Oui, les évêques de France ont reçu une formation avec des pédopsychiatres, des juristes, pour les alerter et les savoir qu'ils sont responsables devant la loi s'ils ne dénoncent pas ces crimes. Et ça, je crois qu'ils en sont... On a fait des avancées.
Parce que pourtant, l'Église menait ses propres enquêtes et rendait ses propres jugements, c'est ça ?
Ses propres jugements.
C'est plus le cas ?
C'est de moins en moins... Si, c'est encore le cas.
C'est la justice canonique.
Oui, mais un évêque...
Comment s'accorde-t-elle avec la justice civile, alors ?
Un évêque qui sait, qui doit absolument, maintenant c'est celui des évêques, hein, doit absolument dénoncer à la justice le prêtre incriminé. Bon, le problème c'est que l'évêque est responsable dans son diocèse de le faire ou de ne pas le faire. Et qu'à un niveau international et même national, tous les évêques n'ont pas la même conscience. La même...
Au Chili, ils ont été nombreux à dénoncer.
Voilà, certains en sont très conscients et le font, mais d'autres ne le font pas, ne le font pas suffisamment.
Et on a vu ce scandale au Chili. On sait que le pape se rend donc ce week-end prochain en Irlande pour un grand conseil de la famille. Et on sait qu'en Irlande, il y a eu beaucoup d'affaires, beaucoup de scandales. Est-ce que c'est une façon de prendre les devants, la lettre qu'il a envoyée hier à tous les catholiques ?
Je pense qu'effectivement, l'annonce qui a été faite en Pennsylvanie ravive tous les soupçons que l'on peut avoir. C'est vrai que l'Irlande, c'était un pays très catholique. C'était une des raisons pour lesquelles on disait à un moment que l'Irlande c'était bien particulier parce que c'était un pays catholique, l'Australie c'était un pays bien particulier, mais on se rend compte qu'en fait il n'y a pas de particularité d'un pays. Et ça c'est très important. Je pense qu'il y a, une vraie volonté, effectivement, en tout cas de titiller le pape sur ces sujets-là.
Stéphane Clerget, est-ce qu'il y a une possibilité aussi ou un risque qu'on passe de cette culture du secret qu'on a évoquée à parfois un emballement des rumeurs, peut-être injustifiées? Je pense à la tribune publiée par Nancy Houston dans Le Monde, l'auteur franco-canadienne. L'écrivaine franco-canadienne, elle évoquait pourquoi pas le lancement d'un hashtag balance ton prêtre, et elle disait même dans cette tribune, elle écrit dans cette tribune que peut-être que ce hashtag susciterait encore plus de dénonciations de faits que le fameux hashtag balance ton porc.
Il est important que la parole se libère, quels qu'en soient les moyens. Je veux dire, oui, bien sûr, il peut y avoir des rumeurs, mais il ne faudrait pas sauter sur l'occasion de fausses accusations, justement, pour étouffer la réalité, qui est qu'effectivement, il y a énormément de prêtres pervers, pédophiles, que c'est un système assez organisé et qui a, à travers le monde, des milliers de victimes. Donc, si effectivement les réseaux permettent de dénoncer certains de ces crimes...
Mais dans cette tribune, elle faisait le lien aussi entre le célibat des prêtres et ces actes de pédophilie. Est-ce que c'est fondé ? Est-ce que la pédophilie peut être le résultat d'une privation sexuelle ?
C'est un peu simpliste. Hein, il n'y a pas de pédophilie par défaut. La pédophilie, c'est quelque chose d'actif. On parle effectivement d'homosexualité par défaut dans l'univers carcéral, par exemple. Donc le lien peut être fait de cette manière-là. Non, c'est un système actif.
La pédophilie, ça ne peut pas être le résultat d'une privation sexuelle.
Non. Et de toute façon, pour compenser cette privation, pourquoi pas aller avec un homme et avec une femme ?
C'est la question qu'on peut se poser.
Non, c'est vraiment quelque chose de malheureusement construit, de présent. C'est pas par défaut la pédophilie. Alors effectivement, la plupart des prêtres sont probablement pas pédophiles, hein, pour autant. Mais c'est vrai que ce système-là va attirer les pervers.
Avec une immaturité sexuelle aussi, peut-être.
C'est simplement une immaturité. En tout cas, beaucoup d'entre eux ont été victimes. Ça ne veut pas dire que toutes les victimes, évidemment, sont pédophiles. Hein. Mais c'est vrai que le fait d'avoir été victime d'un prêtre peut aussi, entre guillemets, favoriser le fait de rester dans le système.
Vous dites que ce système peut attirer un certain nombre de pervers aussi.
Oui.
C'est engagé. Claude Pettner, vous partagez cet avis ? Il y a effectivement des pervers qui sont attirés par le sacerdoce à cause de cette culture du secret qu'on évoquait à l'instant ?
Sans doute, je pense quand même que c'est une minorité. Il ne faudrait quand même pas faire dresser un tableau apocalyptique. Par contre, je pense qu'il y a une vraie culture homosexuels dans le clergé. Voilà.
Je vous arrête tout de suite. Arrêtez de faire le parallèle entre l'homosexualité et la pédophilie.
Pas le je ne fais pas le parallèle.
Mais si. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'est pas la pédophilie, ça n'est pas l'homosexualité. Et c'est une façon aussi de relativiser la pédophilie que de faire ce parallèle-là. C'est très grave, ce parallèle. Mais ça n'a rien à voir.
Non, Alexandre Rousseau, est-ce que ce n'est pas aussi la capacité de l'Église, l'incapacité de l'Église à traiter des questions de sexualité?
Alors, ce qui est vrai, c'est que moi, quand on a commencé en 2014 à discuter, notamment avec le diocèse, pour alerter et puis obliger la démission de ce prêtre et à l'amener en justice, c'est des sujets, en fait, on voit que c'est des sujets à l'intérieur de l'Église qui étaient malmenés. En tout cas, on ne savait pas, on parlait de préférences sexuelles, etc. La pédophilie, c'est une perversion sur des enfants. Il y a des victimes qui restent des enfants avec, effectivement, ce pouvoir d'emprise psychologique et spirituelle qui est destructeur. Quand on parle effectivement du célibat des prêtres, enfin, dans notre association, on voit beaucoup de victimes, il y a énormément les familles, etc. Donc ça n'a absolument rien à voir. La seule chose que l'on dit, c'est que l'Église, en tant qu'institution, donne une arme d'emprise spirituelle qui est une arme de destruction massive quand vous êtes un pervers.
C'est pourtant une question qui revient sans arrêt.
Donc quand vous êtes pris, en fait, vous n'êtes jamais condamné. Donc c'est pour un pervers sexuel.
Mais c'est une question importante parce qu'effectivement, si on ouvrait l'Église et si les hommes et les femmes pouvaient enfin, des hommes mariés ou des hommes en couple qui ont une sexualité adulte et des femmes pouvaient venir occuper le terrain, oui, ça laisserait moins la place aux pervers.
Claude Pétain, pourtant, ce dogme interdisant le mariage des prêtres, ce dogme du célibat des prêtres, il est récent dans l'Église, en fait.
Non, il n'est pas récent.
Bah, il y a du Moyen-Âge.
C'est ça, il y a eu au 1er au 6e siècle, puis au 13e siècle.
L'échelle de l'histoire, c'est hier, le Moyen-Âge, c'est pas...
Oui. Il fallait que l'argent reste dans l'Église, il fallait que l'argent n'aille pas aux enfants.
Pardon, il n'a pas de la naissance du christianisme pendant des siècles, l'Église catholique...
Il a toujours été lié à la vie religieuse, mais pas toujours au célibat des prêtres, qui pendant des siècles n'a pas été de mise du tout. On peut dire que c'est tardif au sens où c'est arrivé au Moyen-Âge.
Quasiment.
et que ça pourrait être remis en question, effectivement. On pourrait très bien envisager d'ordonner des prêtres mariés aujourd'hui. Moi, je pense qu'il faut y aller progressivement.
Ça dépendrait que du pape pour prendre une telle décision?
Ah oui, ça dépendrait du pape. Hein. Ah, oui. On pourrait aussi faire que des femmes accèdent au diaconat, soient diacres. Et déjà, ça changerait des choses. Ça ferait une culture plus mixte. Je pense que
Et vous allez voir, on va voir ensemble que la remise en cause de ce dogme du célibat des prêtres ne date pas d'hier non plus. Je vous propose de regarder notre archive du jour. On va remonter près d'un demi-siècle, hein, précisément 48 ans en arrière. Nous sommes en 1970 aux Pays-Bas et déjà à l'époque, l'Église catholique néerlandaise militait pour l'abandon donc du célibat des prêtres.
Le petit concile de Hollande a été à l'image de la communauté chrétienne de ce pays, c'est-à-dire moderniste et contestataire. Il faut dire que les prêtres sont de moins en moins nombreux chaque année aux Pays-Bas et les actes d'indiscipline de plus en plus évidents. Le clergé hollandais, à l'exception des évêques qui se sont abstenus, a émis hier des vœux, des recommandations qui font quelque bruit. La synthèse par le rapporteur des projets adoptés.
Premièrement, nous avons voté pour qu'on n'exige plus des candidats au sacerdoce de rester célibataires. Deuxièmement, pour que les prêtres déjà mariés soient rendus à leur tâche sacerdotale et pour que ceux qui sont actuellement prêtres célibataires mais qui veulent se marier puissent être maintenus dans le sacerdoce.
Et si Rome dit non à toutes vos motions, qu'est-ce qui peut se passer?
Si Rome dit non, il peut se passer qu'il y a en effet des prêtres qui vont se marier mais qui ne seront pas maintenus dans le sacerdoce.
Bon, Claude Pletner, ça c'était donc aux Pays-Bas, c'était il y a 48 ans. 48 ans après aujourd'hui, l'Église, elle est toujours pas mûre pour mettre en cause le célibat des prêtres?
Non, ça n'est toujours pas à l'ordre du jour.
Les mentalités n'évoluent pas au sein de l'Église?
Ça rejoint ce que je dis, moi je crois, sur un système institutionnel. Hein. Il n'y a pas de raison théologique qui justifie ça. Il n'y a pas de raison théologique qui justifie le célibat des prêtres. Ça relève d'un autre ordre. Donc, s'il y a un blocage, vous vous interrogez pourquoi il y a un blocage? S'il n'est pas d'ordre théologique, il est de quel ordre le blocage? Je vous pose la question.
Alors, comme on le sait tous, nul n'est prophète en son pays. La preuve, c'est que le pape François a des problèmes avec son église, en l'occurrence avec l'église catholique de son pays d'origine, l'Argentine.
L'Argentine, tout à fait. Et cela dit, le mouvement peut peut-être partir de là, un mouvement civil, comme on va le voir, puisque dans ce pays où plus des trois quarts quand même des gens se déclarent catholiques, ils sont aujourd'hui des centaines à poser un geste public politique très fort, même il va prendre une décision très radicale, qu'on appelle l'apostasie, autrement dit à renoncer à leur foi catholique. Concrètement, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'ils demandent leur radiation des registres de fidèles, ils se débaptisent. En fait, cette vague de protestation, elle est partie de la décision du Sénat argentin le 9 août dernier de refuser, de rejeter la légalisation de l'avortement après des mois d'intenses débats au cours desquels, précisément, l'Église catholique a été très active, très virulente. On se souvient, par exemple, que le pape avait comparé l'IVG à l'eugénisme pratiqué par les nazis en leur temps. Mais cette décision des fidèles en Argentine dépasse largement la question de l'avortement, puisque beaucoup d'Argentins aujourd'hui éprouvent une immense colère à l'égard de l'Église. Et précisément, ils reprochent non seulement les déviances, les affaires de pédophilie, mais précisément ce que vous disiez, Alexandre Dussault, cette ingérence permanente dans la vie intime de chacun. En bref, comme le disent certains, sa double morale, c'est-à-dire d'un côté, celle qui prétend défendre la vie humaine, et puis qui en même temps protège les prêtres pédophiles qui abusent des enfants. Alors, est-ce que vous pensez que ce mouvement-là, peut-être justement comme le mouvement MeToo, peut faire tache d'huile et que c'est de là qu'on peut avoir l'espoir que ça change, Alexandre Dussault?
Alors, quand on regarde ce qui se passe en Argentine, c'est vrai que nous, ce que l'on voit dans une grande majorité des victimes...